Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour, soyez les bienvenus. Il est 11h, je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez ce rendez-vous le dimanche, 11h-13h, c'est Mininews The Weekend. 2 heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages et évidemment des débats. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, vous voulez connaître le menu de cette première heure? Voici votre menu. À la une, journée de deuil national en Russie après le massacre du Krokus City Hall. L'attaque la plus meurtrière sur le sol européen revendiquée par le groupe d'État islamique. On fera un point sur les dernières informations. Qui sont les assaillants? Que va faire Vladimir Poutine? François Costantini, géopolitologue, sera avec nous. On le voit, la menace de l'État islamique est plus que jamais présente. Cette attaque en Russie nous prouve que l'État islamique peut taper n'importe où, même dans un État ultra sécurisé comme la Russie. Harold Iman sera également avec nous. Et puis on évoquera aussi Emmanuel Macron et ce long papier à retrouver dans les colonnes du journal du dimanche. L'Europe, puissance, ne peut plus attendre, dit-il. Cela veut dire quoi très concrètement? Et attendre quoi aussi? On se posera la question en décryptage avec notre journaliste politique. C'est normal, nous sommes dimanche. Et c'est Élodie Huchard. Voilà pour le programme. Tout de suite, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot, que je salue. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Des menaces d'attentats ont été diffusées ce week-end à l'encontre de lycées et collèges des Hauts-de-France via les espaces numériques de travail. Les ENT ont donc été piratés. Lundi, 122 établissements vont exploser. C'est ce qu'indiquait un des messages. Les explications de Sarah Varny.
De nouvelles académies ont été visées par des piratages de leurs comptes ENT. Si du côté de l'Académie de Lille, le nombre d'établissements touchés n'a pas été communiqué, du côté d'Amiens, ce sont 5 établissements, 3 lycées et 2 collèges qui ont été piratés, selon la préfecture de la Somme.
Vers 12h15, on a bloqué l'ENT, c'est-à-dire l'espace numérique de travail, parce qu'il y avait des usurpations d'identité. Et on ne voulait pas justement qu'il y ait des menaces qui soient faites par la messagerie de l'espace numérique de travail. On s'est mis d'accord avec le rectorat et donc on a tout coupé. Ce n'est pas une cyberattaque d'ampleur, mais c'est surtout de l'usurpation d'identité. Il ne s'agit pas de créer de l'inquiétude, il ne s'agit pas justement d'avoir une psychose qui puisse se développer. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision justement de tout fermer.
La préfecture de la Somme souligne que les établissements resteront ouverts ce lundi dans des conditions de sécurité renforcées. Mercredi et jeudi, une 50aine d'établissements d'Île-de-France ont subi un piratage similaire. Et en janvier dernier, des établissements scolaires avaient été évacués après un piratage. Des cyberattaques des ENT qui se multiplient ces dernières années, ce qui n'étonne pas les experts en sécurité numérique.
Les systèmes de communication des établissements sont souvent assez ouverts, parce que c'est des systèmes qui doivent permettre de communiquer avec les parents d'élèves, de communiquer avec les élèves aussi de temps en temps. Donc c'est a priori des systèmes qui sont quand même relativement ouverts, des systèmes qui sont faits pour communiquer plutôt que avec une optique de cybersécurité renforcée.
Gabriel Attal a annoncé un audit de ces plateformes ENT. En parallèle, les chefs d'établissement touchés ont déposé plainte et les services d'enquête spécialisés ont été mobilisés pour identifier le ou les auteurs.
À Nice, le trafic de stupéfiants gangrène le quartier des Moulins. Conséquence, les opérations en place nette se multiplient, mais les riverains ne voient pas forcément d'amélioration. Les syndicats de police estiment manquer de moyens pour pouvoir régler le problème dans la durée. Franck Trivio s'est rendu sur place. Le récit est signé Mathilde Bagnès.
Les opérations place nette s'intensifient depuis plusieurs mois ici, dans le quartier des Moulins à Nice, où le trafic de drogue est le cauchemar des riverains.
Tous les soirs, ce square est squatté et on les voit de loin. Hein. Tout le trafic se met en place ici. Une terreur qui se met en place gentiment. Et là, on a un peu d'État qui nous dit « Attention, on est là, mais bon, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. »
Pour les forces de police, un seul objectif, nuire le plus possible à la vie des trafiquants.
Ce qu'il faut, c'est pilonner de chaque instant par ces opérations place nette. Elles doivent donc s'inscrire dans la durée pour être efficaces. Ça, c'est capital. L'idée, c'est de se dire de créer la crise économique.
Mais pour arriver à tenir sur la durée, les forces de l'ordre réclament 100 d'effectifs supplémentaires, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux pour mener à bien les enquêtes.
Nos collègues sont absolument, je parle des enquêteurs, au four et au moulin. Et on a besoin à Nice, urgemment, d'OPJ et d'enquêteurs sur le terrain pour que ces trafics soient aussi démantelés.
Des opérations place nette qui ont déjà fait leurs preuves.
On a procédé à 14 interpellations et une dizaine de kilos de cocaïne ont été saisis, des armes de poing. Voilà, on a un bilan d'ailleurs assez éloquent sur l'année 2023 puisqu'on a 100 kilos de cocaïne, une centaine d'armes également qui ont été saisies, 3 tonnes de résine.
Il s'agit d'augmenter le nombre d'opérations pour ne pas laisser d'espace aux dealers.
Dans l'actualité internationale, en déplacement en Égypte, aux portes de Gaza hier, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Antonio Guterres soutient que le monde en a assez de ce cauchemar sans fin. Après plus de 5 mois de guerre, la situation humanitaire dans le nord de Gaza est catastrophique, mais de profondes divergences persistent entre Israël et le Hamas dans les discussions sur une trêve. Et on termine ce journal avec un mot de Formule 1. Carlos Sainz, vainqueur du Grand Prix d'Australie. L'Espagnol a devancé son équipier monégasque Charles Leclerc sur le tracé de l'Albert Park à Melbourne. 3e place pour le Britannique Lando Norris. Et déception pour le triple champion du monde en titre. Max Verstappen a abandonné en début de course en raison d'un problème mécanique.
Merci.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous Thierry.
Merci beaucoup. J'attendais que vous me passiez la main, ma chère Isabelle. Merci, on vous retrouve dans 30 minutes. Soyez les bienvenus, c'est BNews Weekend jusqu'à 13h. Vous connaissez les horaires du dimanche avec moi pour m'accompagner. Florence Rouas, avocate pénaliste. Soyez la bienvenue.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Des fidèles, Denis Deschamps, conférencier, géopolitologue. On aura besoin de vos analyses, mon cher Denis, évidemment. Allez. Patrice Arditi, journaliste, infidèle lui aussi du dimanche.
Salut Thierry.
Infidèle également, Pierre Lelouch, ancien ministre. Et on aura besoin également de votre expérience sur ce qui se passe en Russie. J'accueille beaucoup de plaisir Stéphane Manigol, restaurateur, président du groupe Éclore. On parlera peut-être à la fin de notre émission de Guide Michelin, un petit peu, bon évidemment. Thierry. Bonjour, soyez les bienvenus. Et puis Harold Iman, vous le connaissez, notre spécialiste des questions internationales. Et on va donc commencer, ça ne va pas vous surprendre, par revenir sur cette attaque terroriste en Russie, après le massacre du Crocus City Hall, avec ce bilan terrible, je vous le rappelle, au moins 133 morts et puis plus d'une centaine de blessés. La Russie observe une journée de deuil national ce dimanche. 11 personnes ont été interpellées, dont 4 assaillants présumés. On voit tout cela avec Juliette Saadat.
La traque aura duré des heures, mais les autorités russes auraient finalement mis la main sur les auteurs présumés de l'attaque terroriste. Selon le ministère russe de l'Intérieur, les 4 suspects arrêtés seraient étrangers, originaires du Tadjikistan. Les services de renseignement russes indiquent qu'ils s'apprêtaient à fuir vers l'Ukraine. Sur ces images publiées sur une chaîne Telegram proche du Kremlin, l'interpellation musclée des personnes présentées comme suspectes. Lors d'un interrogatoire sommaire, 2 des suspects auraient avoué leur culpabilité, l'un disant avoir agi pour de l'argent, sans nommer de commanditaire. Depuis le drame, aucune mention de l'État islamique par le pouvoir russe. Le groupe djihadiste a pourtant publié une photo des assaillants à visage flouté et revendiqué l'attentat. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a déclaré ce dimanche un jour de deuil national.
Alors on va revenir sur l'intervention dans quelques instants de Vladimir Poutine, évidemment. Harold, fait important, il y a eu de nouvelles frappes cette nuit sur Kiev. On ne va pas dire que c'est un début de réponse, mais on va évoquer évidemment cette ambiguïté.
Il y a plusieurs jours que les attaques sont extrêmement puissantes sur Kiev et même sur l'ouest absolu, sur Lviv, qui est presque à la frontière polonaise. Et il y en a eu tellement sur Lviv qu'il y a même eu un survol du territoire polonais, au moins la deuxième fois. Donc c'est une espèce de surenchère, parce que ça n'a aucun but militaire évident que de tirer à l'extrême ouest. Ce serait la partie que Vladimir Poutine ne revendiquerait même pas, l'ouest. Enfin, il fait une distinction entre l'ouest et le reste de l'Ukraine. Donc c'est une montée en puissance. Ça répond aussi aux Ukrainiens qui tirent sur des installations énergétiques en Russie et particulièrement à Saint-Pétersbourg. et aussi à la ville toute proche russe de Belgorod, sachant que les Ukrainiens se sont longtemps abstenus de tirer sur la Russie proprement dite, seulement sur la Crimée. Mais voilà, c'est une montée en puissance des missiles.
Alors Pierre, je vais vous donner la parole. Je le disais, Vladimir Poutine a promis de punir les responsables de cette attaque sanglante. Il a pris la parole, mais il n'a absolument pas évoqué l'État islamique.
Oui, c'est d'ailleurs un problème, parce que clairement, la théorie du complot ne s'applique pas vraiment dans cette affaire. Il y a eu des entourloupes de part et d'autre, c'est clair. Dans la carrière même de Poutine, il a commencé, enfin, c'est ce que l'on dit, il n'y a pas vraiment de preuves, mais vous vous souvenez des attaques contre des immeubles à Moscou qui avaient conduit à sa candidature, ensuite la guerre de Tchétchénie. Les services russes ont joué avec l'islamisme radical, y compris pour organiser le régime au tout début, il y a 25 ans. Il y a eu aussi des entourloupes côté ukrainien, des proches, des gens qui étaient pour la guerre ont été assassinés à l'intérieur de la Russie. Il y a eu l'affaire du gazoduc. On sait aujourd'hui, très probablement, plus que probablement, ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait. Donc il y a une part sombre dans cette histoire avec le jeu des services de part et d'autre. Mais clairement, il y a aussi un passif considérable avec l'État islamique. Et la Russie, il y a eu, depuis l'Afghanistan, il y a toute une série de guerres larvées entre... Mais même avant l'Afghanistan, la conquête du Caucase, c'est une vieille histoire entre le tsarisme et l'islam. Voilà, donc il y a un énorme passif qui justifie que l'État islamique, lui, se fout de savoir de cette guerre de blancs entre Ukrainiens. C'est les koufars, ce sont les infidèles, donc ils vont taper partout. Et s'ils peuvent taper aux Jeux Olympiques, ils taperont aux Jeux Olympiques, ils tapent à Moscou, ils tapent... Et s'ils peuvent aller en Chine taper contre les Chinois qui maltraitent les Ouïghours, ils le feront aussi. Voilà, on est dans cette logique-là, qui va aussi dans le Sahel. Et les Russes vont découvrir que dans le Sahel, ils vont avoir quelques problèmes avec les mêmes métastases de l'organisation terroriste État islamique. Voilà, donc il y a ça. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que Poutine a été humilié doublement dans cette affaire, parce que les Américains avaient prévenu, que lui-même a dit « non, ça, c'est du chantage américain », il a ignoré, quelques jours avant, trois jours avant l'attentat. Et deuxièmement, ses services se sont encore une fois plantés, puisqu'ils s'étaient plantés au début de la guerre en Ukraine. Ils avaient prévu que le régime d'Ukraine plierait en trois jours. C'est pas franchement ça qui s'est passé. Et deuxièmement, les services se sont à nouveau plantés sur cette attaque terroriste. Et on sent bien que, comme il a pas changé les têtes des deux services qui sont toujours là autour de lui, la tentation, naturellement, est grande de faire porter le chapeau à l'Ukraine et de passer à une autre phase de cet engrenage dévastateur. Mais c'est pas encore le cas. Les attaques dont parlait Harold s'inscrivent dans la durée. On voit une montée de la violence et des échanges de missiles et de drones qui ont même amené, alors ça, peu de gens le savent en France, mais les Américains ont demandé aux Ukrainiens d'arrêter de taper les raffineries russes parce que ça fait monter le prix du pétrole. Et le prix du pétrole qui monte, c'est pas bon pour Biden parce qu'il est en campagne présidentielle. Il faut pas que...
Il y a toujours un effet domino, évidemment.
Oui, donc là, on voit bien que la campagne présidentielle américaine percute les buts de guerre ukrainiens. C'est assez drôle, de la même façon d'ailleurs que Macron est pris aussi, lui, dans l'engrenage des sanctions.
On va revenir, évidemment, sur Emmanuel Macron, qui parle longuement dans les colonnes du journal du dimanche.
Burlesque.
On va poursuivre le tour de table.
Les Américains demandent aux Ukrainiens de ne pas taper trop
On va poursuivre le tour de table, mais nous sommes avec François Constantini, géopolitologue. Bonjour François Constantini, merci d'avoir accepté notre invitation. On ouvre le débat, évidemment, sur cette prise de parole de Vladimir Poutine, qui ne mentionne pas, effectivement, l'État islamique et qui pointe plutôt du doigt les Ukrainiens.
Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, en effet, la stratégie de Vladimir Poutine s'inscrit dans ce conflit continu avec l'Ukraine, sachant que néanmoins, il ne pourra pas éluder le danger de l'État islamique. Comme le dit Pierre Lelouch dans son livre référence qui est sur le plateau, c'est une guerre sans fin et la Russie est confrontée depuis très longtemps, notamment depuis les guerres de Tchétchénie. Et puis aujourd'hui, ce conflit est ravivé avec la présence du groupe Wagner en Afrique de l'Ouest, qui se trouve, elle, confrontée directement aux djihadistes avec le départ progressif des Français. Et la marge de manœuvre, disons, de Vladimir Poutine est assez étroite. D'un côté, en effet, il a demandé une remobilisation des réservistes, des soldats, et mis le pays en état d'alerte. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur même de la Russie, c'est peut-être un danger qu'il a négligé par rapport à celui qu'il prétendait de l'Ukraine. Il y a quand même des forces montantes de l'islamisme. Souvenez-vous, il y a quelques mois, à la suite du 7 octobre, du jour tragique du 7 octobre, cet avion au Daghestan qui a été pris d'assaut parce que littéralement, on lui reprochait d'avoir fait ou de venir ou d'aller à Tel Aviv, je ne me souviens plus très bien. Donc il y a une radicalisation du Caucase, la Tchétchénie qui est tenue par Kadyrov, mais également des pays comme des républiques autonomes comme le Daghestan. Et puis on a quand même une montée notamment d'une population musulmane de plus en plus radicalisée en Russie qui va poser un certain nombre de problèmes. Et là, la marge de manœuvre de Poutine semble assez étroite, même s'il semble aujourd'hui désigner les Ukrainiens. Alors bien sûr, il n'y a aucune preuve de l'implication directe des Ukrainiens dans cet attentat. Alors on sait bien sûr qu'il y a autour de l'Ukraine des bataillons tchétchènes hostiles à Kadyrov, qu'il y a des unités de Tatars de Crimée qui sont revenus, qui sont radicalisées. Mais on peut dire quand même que la marge de manœuvre sécuritaire de Poutine apparaît aujourd'hui étroite.
Restez avec nous, François. On poursuit le débat avec nos invités. Justement, Zelensky a répondu à Poutine. Écoutez-le.
Encore une chose, ce qui s'est passé hier à Moscou. Il est évident que Poutine et les autres salauds essaient juste de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Leurs méthodes sont toujours les mêmes. Nous avons déjà vu tout cela. Des bâtiments détruits, des fusillades et des explosions. Et ils cherchent toujours quelqu'un à blâmer.
Florence, ce n'est pas une surprise que Poutine pointe Kiev.
Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est dans le déni, puisque l'État islamique a revendiqué où est son problème, en fait. Hein. C'est une vraie question. On a le sentiment qu'il est dans le déni.
Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Où est son problème,
hein. Oui, où est son problème? Alors, est-ce que, je ne sais pas, parce que c'est ses relations comme ça avec l'État islamique, enfin, je ne sais pas, puisqu'on sait aussi que...
C'est ambigu d'ailleurs. Hein,
c'est ambigu parce qu'on sait que Poutine, avant le 7 octobre, l'attentat en Israël, l'attaque en Israël, il avait reçu, semble-t-il, il était en relation avec le Hamas. Mm-hmm. Donc on ne comprend pas bien ce qui se passe dans tout ça et ce qui se joue. Mais en tout cas, moi, à mon sens... on verra, l'avenir nous le dira, si effectivement, eu égard au fait que c'est l'État islamique qui a revendiqué, quel serait leur intérêt de revendiquer cet attentat si ce n'est pas eux, ou alors il y a des choses qui nous échappent encore, peut-être. Hein.
Patrice.
Bon, tout le monde sait que Poutine, c'est pas le seul, est un opportuniste. La guerre contre les islamistes s'est larvée depuis un certain nombre d'années. Il a tout intérêt à mettre ce qui s'est passé sur le dos de l'Ukraine. Et pourquoi ? Tout simplement pour rassembler autour de lui. Il y a quand même ces services de sécurité qui ont lamentablement, je cherche le terme, merdé, excusez-moi, qui n'ont pas vu venir cet attentat, d'autant que les Américains avaient plus ou moins prévenu. Alors il essaye, et il reprend les rênes, je suis là, d'ailleurs la preuve, vous avez vu, on a pas tardé pour arrêter des...
Il n'a pas pris la parole tout de suite, Poutine, hein. Il n'a pas pris la parole tout de suite, il a attendu.
Il a attendu qu'on capture les gens en question, dans quel état ils sont maintenant, ça je ne veux même pas le savoir. Et c'est assez curieux parce que... Il implique l'Ukraine, mais on a l'impression qu'il attend quand même les diverses opinions internationales qui, en principe, devraient se lier pour dire « c'est quand même du terrorisme et c'est du terrorisme islamique ». Mais son intérêt, c'est évidemment de culpabiliser l'Ukraine.
On termine le tour de table. Stéphane Manigold et Denis Deschamps, que je n'ai pas encore entendu.
Évidemment, ce qui s'est passé est un drame. L'État islamique a frappé encore là où la culture, où les gens s'amusent, où les gens vont se retrouver.
Pourquoi ? Et puis dans un pays hautement sécurisé. Hein.
Oui,
si c'est dans la banlieue de Moscou, où on peut penser que dans le centre de Moscou, ce soit plus sécurisé, mais quand même, le symbole est fort.
Mais justement, on est dans un pays qui est en guerre. Donc la Russie, c'est un échec du FSB. Et surtout, c'est un échec terrible pour Vladimir Poutine, qui sort d'une séquence où il a menacé la France, il a menacé l'Occident. Il a montré quand même les muscles, Vladimir Poutine, vis-à-vis de tous ceux qui viendraient au fond, notamment les soldats français qui viendraient combattre en Ukraine, qu'il les tuerait un par un. Là, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que une poignée de terroristes, 25, globalement ils ont 25 ans ces terroristes, armés jusqu'aux dents, arrivent à pénétrer dans Moscou, dans cette salle de concert, avec des armes lourdes, et à faire un massacre aussi puissant. On peut se poser la question du déni de Vladimir Poutine. Va-t-il réussir à convaincre au fond l'opinion publique russe que c'est peut-être les Ukrainiens qui sont derrière? Je ne le crois pas. Il y a eu un communiqué de presse de l'État islamique. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine devra en avoir conscience, parce que je pense que là, il va perdre l'opinion publique russe.
Denis Deschamps.
Moi, je ne suis pas du tout de cet avis, parce qu'en fait, les médias russes font du matraquage en permanence depuis des mois et des mois. Donc, en fait, ils n'ont qu'un son de cloche qui est instrumentalisé. Donc là, de ce côté-là, l'opinion russe ne va pas basculer. L'autre point, on en parlait de vendredi soir en spécial sur ces plateaux, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on savait qu'il allait utiliser cet nouvel élément dans son équation pour s'en servir contre Zelensky. La ficelle est grosse, bien entendu, mais comme disait Pierre Lelouch, c'était... Évident, il va l'utiliser et il est déjà en train de l'utiliser.
C'est une corde.
Pardon ?
C'est une corde,
ficelle. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était trop tentant. Donc, c'est un nouvel élément dans l'équation. L'effet en dérivé seconde, ça va être quoi ? Ça va être de dire, rassemblez-vous tous derrière le chef. On mobilise parce qu'on est attaqué. Ce qu'il ne dit pas en réalité, c'est qu'il a un deuxième front qui est en train de s'ouvrir et qu'effectivement tout est mobilisé sur l'Ukraine et que pendant ce temps-là, peut-être que les renseignements intérieurs ont été peut-être soit déstabilisés, soit concentrés sur d'autres sujets. Donc en fait, là, il a laissé passer l'affaire. Troisième élément, on ne peut pas tout sécuriser, même dans un pays totalitaire
c'est sûr
comme
que la sécurité,
ça aujourd'hui.
Le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr.
C'est un mall, c'est un centre commercial. On ne peut pas tout sécuriser, ce n'est pas possible. Donc malheureusement, il y a aussi des trous dans la raquette. Dernier point, et je rebondis sur ce que disait Harold, très important, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs jours, il intensifie ses frappes sur l'Ukraine et sur l'ouest de l'Ukraine, sur Lviv et sur Odessa. Et je suis persuadé, malheureusement, je ne le souhaite pas, qu'avec le reflux américain qui se concentre sur la campagne, parce que quand il y a une campagne électorale là-bas, ils sont obsédés par leur campagne. Il y a un reflux américain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un fort risque que l'Ukraine tombe. Donc en fait, cette partie ouest-là, notamment la mer, le dernier accès à la mer, s'il tombe, l'Ukraine en dérivée seconde peut totalement tomber. Et il joue là-dessus, en fait. Je ne le souhaite pas, mais ça peut totalement tomber.
Pierre Rouge.
Alors d'abord, je voudrais remercier François Constantini d'avoir mentionné mon livre, publié il y a 6 ans maintenant, qui s'appelle Une guerre sans fin et qui portait sur les suites de l'État islamique qui s'est jamais arrêté. Le retrait américain d'Afghanistan en septembre, août-septembre 2021 a laissé la porte ouverte à une réconciliation des talibans avec l'État islamique et un débordement maintenant à l'intérieur du Pakistan. Donc on a affaire à des gens qui sont extraordinairement violents et qui ont des ramifications dans tous les pays musulmans. Voilà, c'est ça le sujet. Et en Russie, il y a 30 millions de musulmans. 30 millions. Donc quand il dit c'est des étrangers du Tadjikistan, le Tadjikistan c'était une république soviétique il n'y a pas si longtemps. Il y a plein de républiques qui sont musulmanes et qui sont à l'intérieur de la fédération ou juste en dehors. Le Caucase a toujours été un mal de tête permanent. On élève les enfants russes avec la crainte du couteau de Tchernobyl. Enfin, ça fait partie du folklore national. Donc ce qui se passe aujourd'hui, si les Russes peuvent être... on est dans un climat de guerre. Vous avez entendu Zelensky, les mots qu'il emploie. On est dans une guerre civile qui est en train de devenir de plus en plus brutale. Il n'est pas exclu que Poutine arrive à faire croire à son peuple que tout ça, c'est quand même plus ou moins téléguidé par l'Ukraine et que la guerre est totale. Il utilise le mot de guerre. Il a annoncé la semaine dernière... son premier voyage, c'est en Chine, début mai. On sent que le système se radicalise. Alors, qu'est-ce qui va se passer au printemps, quand la boue va sécher? Tout le monde craint une offensive russe forte, parce que les Ukrainiens sont sur la défensive. L'armée ukrainienne est très fatiguée, faute de renforts, et elle n'a plus de munitions à cause de la campagne américaine. Donc, il y a un risque, en effet, qui pousse jusqu'à Odessa. On a entendu le président de la République française dire un peu légèrement « Je vais devoir envoyer des mecs
On en parlera dans Odessa. On en parlera dans quelques instants.
On va marquer tout ça sent pas très bon.
Oui, on va marquer une première pause et on reviendra évidemment sur ce qui se passe en Russie et sur l'État islamique et sur les rapports également avec les Russes et le monde musulman. Restez avec nous, c'est sur CNews que ça se passe. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Merci de nous accueillir en ce dimanche chez BNews Weekend jusqu'à 13h. On fait un tour dans l'info avec Isabelle Piboulot.
À l'aube, en Ukraine, les forces russes ont lancé des attaques aériennes contre Kiev, mais aussi au sud de Lviv. Des débris de missiles ont été retrouvés dans la capitale. L'armée polonaise a donc relevé son niveau d'alerte face à l'intense activité militaire près de sa frontière. La Pologne exige par ailleurs des explications à Moscou. Un missile de croisière russe a violé son espace aérien cette nuit. Les plus célèbres monuments du monde plongés symboliquement dans le noir, le Colisée, la Sagrada Familia, la Tour Eiffel ou encore l'Opéra de Sydney ont été éteints pendant une heure la nuit dernière en soutien à la protection de la planète et sa biodiversité. Une initiative proposée par l'ONG WWF afin de sensibiliser au dérèglement climatique. Et puis un mot de football, un peu moins de 3 mois de l'Euro 2024. La France s'est inclinée 2-0 hier soir à Lyon en match amical face à l'Allemagne. Florian Wirtz a ouvert le score en moins de 8 secondes et demie après le coup d'envoi. Second but inscrit à la 49e minute par Kai Havertz. Didier Deschamps a regretté un manque d'agressivité et de détermination chez les Bleus, notamment privé d'Antoine Griezmann. Prochaine rencontre pour les Français, ce sera mardi à Marseille face au Chili.
Merci ma chère Isabelle. C'est vrai qu'à une époque, on disait à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. On avait perdu cette habitude, mais l'Allemagne a gagné hier avec un but très 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 rapide. Allez, je vous présente mon équipe de grands témoins qui m'accompagnent. Florence Roise, Denis Deschamps, Patrice Arditi, Pierre Lelouch, Stéphane Manigol et Élodie Huchard qui nous a retrouvés puisque nous sommes dimanche et nous parlons évidemment politique. On va revenir longuement sur cette interview accordée par Emmanuel Macron à nos amis du journal du dimanche. On va revenir sur cette attaque de l'État islamique en terre russe. Cela montre en tous les cas, on l'a déjà plus ou moins évoqué, que l'État islamique peut taper n'importe où et c'est le symbole même de cette attaque, même dans un état où la sécurité est omniprésente. On voit tout cela avec Solène Boulan et on poursuit le débat avec nos invités.
Après la chute de Mossoul et Raqqa en 2017, deux bastions de l'État islamique, les derniers combattants de Daesh se retranchent à Baghouz en Syrie. Le 23 mars 2019, les djihadistes sont forcés de se rendre. Cet événement est annoncé comme la fin de l'État islamique. Mais l'idéologie persiste au sein de cellules dispersées dans différentes régions du monde.
Le califat, qui était à cheval sur la Syrie et l'Irak, a disparu, je dirais, administrativement. Mais ils sont toujours très présents, les activistes sont toujours présents sur ces deux pays. Deuxième zone où ils sont extrêmement actifs, pour le moment, c'est le Sahel.
Selon les spécialistes, en frappant au cœur de la Russie avec sa branche afghane, l'État islamique souhaite réaffirmer sa présence et regagner la confiance des combattants.
L'ouverture, je dirais, d'un énième front en Russie qui peut laisser penser qu'il pourrait avoir d'autres actions dans la surzone, eh bien, ça va leur permettre de regagner en crédibilité, je dirais, vis-à-vis de leur public et essayer de recruter de nouveaux militants.
Un recrutement opéré en grande partie via Internet et les réseaux sociaux que les pouvoirs publics peinent à contrer.
Aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant et le plus difficile à repérer, c'est l'individu qui passe à l'acte tout seul, sans avoir besoin d'ordre de l'extérieur, en adhérant au projet islamiste et en décidant lui-même de passer à l'action.
En France, la menace persiste. Le niveau 2 du plan Vigipirate est activé, correspondant à un niveau élevé de la menace terroriste.
Alors on l'a largement évoqué, évidemment le risque zéro n'existe pas même dans un pays comme la Russie, mais je voulais qu'on revienne sur les rapports entre la Russie et l'univers musulman. Écoutez ce que disait Gérard Vespierre ce matin dans la matinale de CNews, c'est très intéressant, on ouvre le débat.
Ouvrir le dossier des rapports de la Russie avec l'univers musulman qui représente pratiquement 15% de la population russe. 20 millions de Russes sont de confession musulmane. Donc le dossier de l'État islamique, des rapports avec le monde musulman, est particulièrement lourd. Il y a une fuite, effectivement, devant ce dossier qui ne veut pas être un deuxième front intérieur et politique.
C'est ce qu'on évoquait, Pierre. Hein. Les rapports sont pas si simples que ça, sont parfois complexes même.
Hein. Ça tient à l'histoire de la Russie sous les tsars, l'expansion vers le sud. Qu'ils ont pris tout un tas de régions qui étaient musulmanes. Quand la révolution est arrivée, il y avait chez Lénine le principe des nationalités, c'est-à-dire que chaque nationalité avait le droit de s'affirmer, y compris en tant que musulman, arménien ukrainiens. Au début de la conquête de l'Ukraine, pendant les années 20, l'Ukraine a connu une sorte de printemps culturel. On parlait l'ukrainien, etc. C'est après que les vis ont été resserrées à peu près partout. Mais les foyers demeurent. Mmh. La question de l'intégration de l'islam à l'intérieur de la maison de Russie qui reconnaît pas qui reconnaît les nationalités parce que tout le monde se trouve dans le soviétisme. C'est une version soviétique de la laïcité. Hein. Théoriquement, vous pouvez être ce que vous voulez, mais vous vous reconnaissez dans dans la République française. Ben, le soviétisme, c'était du même genre. Vous êtes censé, vous pouvez rester musulman, mais vous êtes d'abord soviétique. Et dans les passeports, dans les papiers d'identité, il y avait la nationalité. Hein. On était juif, on était tchétchène, on était... Voilà. Et donc cette coexistence, quand la Russie était toute puissante, ça allait. Mais quand on a vu, à partir des années 70, monter l'islamisme, d'ailleurs financé beaucoup par l'argent du Golfe, hein, le salafisme venu d'Arabie Saoudite, les mosquées, la prolifération... Le salafisme est arrivé après en Afghanistan. Pendant très longtemps, l'Afghanistan n'était pas un pays salafiste. Donc il y a une ré-islamisation du monde musulman avec le salafisme venu d'Arabie et l'argent venu d'Arabie. C'est ça qui a déclenché la montée, la ré-islamisation du monde arabe, y compris dans le Maghreb. Le Maghreb n'était pas salafiste. Il est devenu salafiste. Et les Tunisiens qui tuent n'avaient jamais été élevés dans la tradition musulmane en Tunisie ou dans le Maghreb n'est pas salafiste. Elle l'est devenue.
On va retrouver François Constantini. Évidemment, ces rapports sont ambigus, François. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'on ne cesse de répéter depuis le début de cette émission.
Oui, bien sûr, c'est le fait d'histoire. Mais les rapports sont d'autant plus ambigus que vous avez en Russie un islam qui est essentiellement sunnite. Mais vous avez par contre des alliances en matière diplomatique qui tiennent et essentiellement avec l'islam chiite, notamment cette alliance avec l'Iran. Donc la Russie se retrouve un petit peu à front renversé, avec un islam sunnite radical qui monte dans le pays de plus en plus important, mais de l'autre, des alliances extérieures avec le chiisme. On sait notamment que le chiisme est totalement abhorré, notamment par l'islamisme sunnite radical, et que la Russie se retrouve en quelque sorte... en porte-à-faux vis-à-vis de ses alliances, et que de plus en plus, elle a du mal à les régler. Regardez par exemple le cas de Kadyrov. Kadyrov est un islamiste radical, mais il est rallié à Moscou. En Tchétchénie, s'applique la charia, c'est-à-dire l'emprisonnement des homosexuels, la polygamie, la loi islamique pour tous. Donc la Russie, n'oublions pas, est une fédération. Et d'ailleurs, on a assisté à l'effondrement de l'Union soviétique. Il n'est pas dit qu'un jour, il y a un certain nombre de forces centrifuges à la suite de peut-être d'un glissement à la Tchétchénie ou du Daghestan ou d'autres pays qui remettent en cause leur appartenance à la Fédération de Russie. Donc ça va être peut-être le grand défi de la Russie, ce défi qu'elle a peut-être ignoré par rapport à celui de l'Ukraine, qui est notamment la place de l'islam russe. Alors certaines régions sont assez bien gérées, on peut parler par exemple du Tatarstan, où il y a une bonne notamment cohabitation entre orthodoxes et musulmans, un islam plutôt modéré. D'ailleurs, on sait que l'islam en Russie se présente comme ayant été présent d'ailleurs avant même la religion orthodoxe, mais aujourd'hui il y a, comme Pierre Louche l'a remarqué, il y a une mutation de l'islam, il y a une mutation des populations, il y a une mutation notamment surtout des écoles islamiques, notamment du salafisme et du frérisme qui montent en Russie. Et je pense que ça va être le défi important que va avoir la Russie à rencontrer, d'autant plus qu'au plan extérieur, elle se trouve, elle, par ses engagements en Syrie, au Sahel notamment, en prise directe avec l'islamisme radical.
Merci François Constantini, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. On va enchaîner, si vous le voulez bien, parce que je voudrais qu'on évoque très rapidement avec vous, Élodie Huchard, cette interview d'Emmanuel Macron accordée à nos confrères du Journal du Dimanche. Long témoignage avec cette phrase que j'ai notée à la une de nos confrères. Hein, « L'Europe puissance ne peut plus attendre ». Mais attendre quoi? Et cela veut dire quoi?
Eh bien, en fait, pour reconstituer un petit peu ce qui s'est passé, nos confrères du GIGN ont suivi le président de la République à Bruxelles jeudi et vendredi dernier. Et donc, on voit que le président Emmanuel Macron continue de vouloir convaincre ses alliés, notamment de s'aligner sur ses positions sur l'Ukraine. Il dit que son but, c'est de cranter la position offensive envers la Russie sans écarter aucune option. On se rappelle, sans écarter aucune option, donc sans écarter des troupes au sol. Alors, lui-même explique que, selon lui, il a eu raison, qu'il a gagné dans les messages, on le voit, qu'il envoie à son équipe. Alors attention, parce qu'en fait, ils ont réussi à signer un accord sur un certain nombre de points. Par exemple, les tirs de longue portée pour atteindre les Russes sur le sol ukrainien, ou encore que les avoirs russes qui ont été gelés servent à financer l'aide à l'Ukraine. Alors, attention, l'accord ne va évidemment pas plus loin que ça. Et il parle aussi d'un changement de paradigme, parce qu'il explique que maintenant, l'Europe doit apprendre à se défendre seule, qu'elle ne peut plus compter en permanence, comme elle l'a fait, sur les États-Unis. Et selon lui, le durcissement de la France et de ses alliés aurait été compris par Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'il dit à nos confrères du JDD. En tout cas, on voit le président de la République qui continue de dire qu'il n'est pas seul, que ses alliés le soutiennent, l'opinion publique ne le lâche pas, alors qu'en fait, dans la réalité, certes, il y a bien eu un accord où les pays de l'Union européenne ont signé et ont topé, comme le dit le président de la République. Attention, ça ne va évidemment pas plus loin que ce que je viens de vous citer.
Bon, il est tout seul à être convaincu de ce qu'il dit, a priori, parce que sur la scène européenne, vous me dites si je me trompe, vous êtes une fine observatrice de ce monde politique. Il est un peu isolé, et quand on parle de la scène nationale, évidemment, c'est pas simple non plus, là.
Non, parce que toutes les oppositions, évidemment, sont montées au créneau contre cette proposition d'envoyer des troupes au sol. Et d'ailleurs, que vous preniez le Rassemblement national, les Républicains ou la France insoumise. Donc, pour une fois, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a mis tout le monde d'accord. Et encore tout à l'heure, sur notre plateau, Éric Ciotti, le patron des Républicains, expliquait qu'il jugeait que ces déclarations « va-t-en-guerre » étaient irresponsables. Et surtout, du côté de la droite, notamment hier, lors du meeting de lancement de campagne, on a beaucoup dénoncé le côté communication du chef de l'État sur ce sujet, au lieu de trouver ou de chercher, en tout cas, des solutions qui puissent vraiment aider l'Ukraine.
Merci beaucoup. Stéphane Manigol.
C'est compliqué dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine d'abandonner l'Ukraine. Il ne peut pas baisser les bras en disant bah, « Vas-y, Poutine, fais ton marché, choisis le pays que tu as envie d'envahir et puis vas-y ». Sa position, elle est logique. Elle est certes compliquée à comprendre, je l'entends, mais moi, je n'ai pas envie demain qu'on aille ou qu'on envoie des troupes au sol. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, c'est qu'on est dans une situation où Poutine a des envies et peut-être pas que l'Ukraine. Donc il faut aussi savoir lui dire...
Qu'est-ce que
vous en savez autre que cela?
Pour revenir sur...
Alors, on poursuit. J'aimerais donner la parole un peu à tout le monde, là, ce matin.
Pour revenir sur le président Macron, c'est une idée qu'il a vraiment depuis le départ, dès qu'il a été élu. Je rappelle, dès son premier jour, il était voir Angela Merkel et il a proposé à Angela Merkel, entre autres, de faire une Europe de la défense. Et Angela Merkel a répondu ce même jour, moi je n'ai pas besoin d'Europe de la défense puisque j'ai déjà mon armée, c'est l'OTAN, le fameux parapluie américain. Donc le sujet est en train de revenir. Et l'Europe tout entière a plus de 480 milliards de budget ensemble. Si on réunit tout ça, et comme le général Desportes le disait, si on organise tout ça, ça peut peser. Donc en fait, elle est encore à construire, ça peut être un facteur décisif dans l'avenir de l'Europe.
Mais monsieur.
Oui.
Ça a commencé en 1954. C'est pas hier matin. 54. On est en 2024. L'Assemblée nationale, à l'été 54, a voté contre la communauté européenne de défense. C'était il y a 70 ans. Depuis, il y a eu l'OTAN. Maintenant, les Américains sont en train de tourner les talons, d'où l'effet de panique qui est un peu partout en Europe, parce qu'en même temps, il y a une guerre et qu'on ne sait pas gérer. Mais on est en train d'expliquer qu'on va aller au sol. Moi, la seule question que je dis, c'est avec quoi et avec quel argent? On a 3 000 milliards de dettes, 6% de, 5, presque 6% de déficit budgétaire. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit budgétaire, 30 ans qu'on désarme l'armée française, et on me dit qu'avec 20 000 hommes, on va aller faire la guerre sur un front où il y a 1 million d'hommes. On est dans le déraisonnable complet, sauf si on a envie de rentrer dans un engrenage nucléaire.
Mais qu'est-ce qu'on fait en Poutine
faire?
C'est pas 20 000 hommes qui changera la donne.
C'est pas l'argument « je vais aller me battre en Ukraine » ou alors « je laisse Poutine faire ». Il y a d'autres choses à faire. Effectivement, il faut assister l'Ukraine dans la défense de cette ligne de front de 1000 km. Il y a une urgence pour les livraisons d'armes.
mais il y a aussi une urgence pour le réarmement de l'Europe. J'entends pas un centime, c'est ça qui est le plus énervant. J'entends dire Europe de la défense, on envoie des forces. Où est l'argent ? Si j'avais vu le président de la République dire « Ok, je fais un emprunt national pour la défense nationale, j'organise le service militaire obligatoire, je propose la préparation de notre pays à la défense », là, Poutine commencerait à entendre.
Pierre, je voudrais entendre.
Je voudrais donner la parole à Pierre. La semaine dernière, un emprunt de 200 milliards pour réarmer l'Europe, je pense que Poutine a entendu. Mais pour l'instant, on est dans la tchatche.
Je voudrais entendre Florence, Patrice, sur la prise de position et les propos tenus par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est encore entendable ?
Ce que j'ai lu, en tout cas, dans le JDD, c'est qu'il demande à ses ministres de se bouger. Il veut être sur plusieurs fronts au niveau de l'Europe, pas que sur la défense, mais également sur la santé, sur la question de la protection des mineurs, sur le cyberharcèlement, sur le trafic de mineurs aussi. On a vu que c'est un vrai sujet. Donc, en fait, en réalité, renforcer l'Europe pour se renforcer sur plusieurs fronts. La santé, il parle notamment de la question du Covid, que finalement on a pu avoir un certain nombre de vaccins grâce à cette force de l'Europe. Sur la question de la défense, vous l'avez évoqué, mais je trouve que, a fortiori, à l'aune de ce qui s'est passé vendredi soir et de cet attentat terroriste, pardon ?
Ça rabat les cartes.
Mais ça donne encore plus d'importance à cette force de l'Europe. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez interviewé un certain nombre de géopolitologues qui expliquent que, finalement, la force de l'islamisme radical, tout à l'heure, Pierre Lelouch a dit, il a expliqué toutes ces, ces influences islamistes et en fait qui n'ont jamais cessé et que l'on retrouve avec une puissance importante notamment en Russie. Moi, je crois que l'Europe à tout niveau, à tous égards, a intérêt à être forte. Et je crois que c'est le message qu'il a voulu faire passer, me semble-t-il.
Sauf qu'effectivement, c'est de moins en moins entendable par rapport.
L'argent.
Patrice,
c'est le grand danger.
L'union fait la force.
Quel est notre grave danger dans un peuple français? C'est de tout en arriver à banaliser. Ça dure déjà depuis un certain temps, cette guerre en Ukraine. Ça sera la même chose pour Israël contre le Hamas. On banalise, on s'habitue doucement à ce que les événements se multiplient et puis on fait pas grand chose. Nous avons un président, je ne cherche pas à le défendre. La seule personne ici sur ce plateau qui a été au sommet de l'État, c'est Pierre Lelouch. Moi, j'ai l'impression, dans l'exécutif. D'accord, mais dans l'exécutif quand même.
J'avais arrêté un feuilleton.
Bien sûr.
Sans vous faire injure, évidemment, mon cher Pierre.
Dans l'exécutif. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe. On a crié. Tout le monde s'est dit mais quelle horreur quand le président de la République, je parle de Monsieur Macron, et évidemment a commencé à dire que on pourrait intervenir sur le terrain. Enfin, disons que ce n'était pas exclu. On sait très très bien qu'ils en ont discuté entre chefs d'État, entre responsables politiques. On sait très bien que de toute façon, tous les dirigeants européens savent qu'il y a un moment donné où il faudra faire un pas en avant. Et j'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, j'ai l'impression que M. Macron a été, sinon mandaté, disons qu'on lui a suggéré peut-être de servir de haut-parleur et d'habituer l'opinion publique à un regain de tension qui pourrait se manifester par une défense militaire européenne.
C'est pas du tout comme ça. Alors, Denis, en réalité,
très rapidement, parce qu'on arrive à la première pause de BBNews.
Il y a trois facteurs. Le premier, c'est le reflux américain qui fait que si les Américains se retirent, l'Ukraine tombe. Deuxième élément, c'est que Macron a parfaitement compris tout de suite que si on coalise les Européens, on a une toute petite chance, sauf qu'on n'a pas le temps pour s'organiser. On n'est toujours pas en économie de guerre. On ne s'est toujours pas fabriqué assez d'obus. Il y a un rapport de 1 à 10 selon Macron. Troisième point, il y a aussi un facteur personnel et orgueilleux qui fait que Macron a essayé de saisir un moment churchillien en disant « Là, il y a peut-être une fenêtre de tir pour que je puisse coaliser tout le monde et je suis le chef de guerre. »
Quatrièmement, il y a les Européennes.
Et en plus, il y a les élections.
Allez, le mot de la fin, Stéphane, rapidement.
On peut quand même finir sur le fait que l'Europe doit être forte et qu'un moment,
ça discutable.
et de se coucher devant toutes les autres puissances comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un dictateur qui a envahi un pays. Faut pas s'en éloigner du sujet. Celui qui pose aujourd'hui un problème, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui tue les
autres. Qu'y a-t-il de mal à essayer de renforcer une autonomie militaire?
Ça, c'est quand même incroyable. On est là à se dire maintenant que la France est tout petit, on n'a pas d'argent. Mais non, la France, elle est fière. La France, elle a fait château de Versailles. La France a tout fait. Et la France va continuer d'être fière. Moi, j'ai envie que la France continue à rayonner. Je ne suis pas d'accord avec votre position, monsieur Lelouch.
Les gens qui nous regardent, nos téléspectateurs, ne vous comprennent plus parce que vous parlez tous en même temps.
C'est l'heure de l'apéritif.
On va marquer une pause. On se retrouve. Les débats sont animés. C'est le principe même et l'essence même de nos émissions, évidemment. On marque une pause. On va respirer. On va se poser. Et on va se retrouver. Et je vous amènerai du côté de Compiègne. Pourquoi ? Parce que vous savez, il commence à faire beau. Et quand il fait beau, les rodéos reviennent. Et c'est pas simple de gérer ce problème. On en parle. Et c'est un débat midi 12 week-end. Bon appétit si vous êtes à table, si vous vous mettez à table. À tout de suite.
Je ne supporte pas la caricature. Et je vous autorise pas à dire que je défends.
Il est midi, rebonjour, merci de nous accueillir, c'est la dernière heure de midi 12 week-end, bon appétit si vous vous apprêtez à vous mettre à table en ce dimanche, le fameux déjeuner, vous savez, familial évidemment. Tout de suite, eh bien écoutez, le menu de notre deuxième heure. On va partir dans l'Oise, à Compiègne plus précisément ce midi. On vous embarque avec la police municipale qui lutte contre les rodéos urbains, les beaux jours arrivent et évidemment, les rodéos reviennent. Reportage édifiant de Fabrice Elsner. Dans Midi News Weekend, on partira également à Nice. On va décidément beaucoup voyager. Direction le quartier des Moulins, un quartier gangréné par la drogue. Les policiers multiplient les actions. Pourtant, les habitants ne voient pas le changement. On sera avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national de l'unité SGP Sud, qui réagira. On en parle évidemment. Et puis enfin, on évoquera le voyage d'Emmanuel Macron en Guyane. Il y est attendu de pied ferme, on s'en doute, dans un contexte excessivement tendu. On en parle, on sera avec notre envoyé spécial Florian Tardif. Voilà pour notre menu, on fait le tour de l'info tout de suite, comme d'habitude, avec Isabelle Piboulot, que je resalue à 12h très précisément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et on commence avec cette question. La menace terroriste restant élevée en France, faut-il réintroduire le service militaire obligatoire? Eh bien, selon un sondage CSA pour CNews Européens et le JDD, 65% des Français interrogés y sont favorables. 35% en revanche se disent contre. Il y a 4 ans, la France connaissait son premier confinement lié au Covid-19, un virus qui peut vous paraître loin, mais qui fait encore partie du quotidien de certains. C'est le cas de Robin, 13 ans, souffrant de Covid long, un calvaire pour l'adolescent contraint d'être isolé. Reportage en Gironde de Jérôme Rampenot.
Robin a 13 ans et depuis 2 ans, il subit un Covid long. Des douleurs, de la fatigue, c'est une petite partie de ses symptômes. Et plusieurs fois par jour, il a besoin de séances d'oxygène.
T'as combien là sur une échelle de 10 sur ta fatigue?
Je suis à 7.
T'es à 7 sur 10 au niveau de la fatigue?
Aujourd'hui déjà j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, je me suis réveillée environ 7 fois cette nuit, donc je suis fatiguée et j'ai un petit peu mal dans les jambes.
Depuis le début de sa maladie, il est bloqué chez lui, l'école se fait à distance, l'isolant d'une vie sociale d'un enfant de son âge, beaucoup de choses lui manquent.
Le sport, et pour l'instant en fait... Mes copains, je les vois plus trop, on n'est plus trop en contact.
Robin va effectivement mieux depuis qu'il a un traitement. Un petit soulagement pour sa mère, mais le chemin est encore long.
Il y a 2 ans en arrière, Robin, il se levait du canapé, il faisait 3 pas, il s'écroulait. Il dormait 20 heures sur 24. Aujourd'hui, on n'est plus avec... Les symptômes ne sont plus aussi lourds, heureusement. Pour autant, c'est un petit garçon qui est incapable de retourner au collège. Le bruit, la lumière, en termes d'énergie, c'est pas possible.
Pour Laetitia, le plus dur, c'est ce sentiment d'être abandonné quand arrive la maladie et que personne ne sait quoi faire.
On est démunis, en plus, voir son propre enfant souffrir, honnêtement, c'est extrêmement dur. Puis en plus, à chaque porte où vous tapez, la porte, elle ne s'ouvre pas.
Comme Robin, ils sont encore des centaines à souffrir de Covid long sans qu'une solution pour les guérir leur soit proposée.
Dans le reste de l'actualité, bonne nouvelle côté tourisme en France. Les recettes touristiques ont atteint un niveau record en 2023, 63,5 milliards d'euros, soit une hausse de 12% par rapport à 2022. Alors dans le détail, quelles nationalités sont les plus séduites par l'Hexagone? On voit cela avec Régine Delfour.
Une fois n'est pas coutume, les Européens ont plus pris la pause devant les monuments français l'an passé que leurs homologues asiatiques. Les visiteurs étrangers ont dépensé plus de 63 milliards d'euros en 2023, mais ce sont surtout nos voisins qui sont venus en nombre.
C'est les Belges qui arrivent largement en tête, les Britanniques, donc ça représente plus de 7 milliards, les Suisses et les Allemands, ça représente à peu près chacun 6,5 milliards d'euros. Donc en gros, c'est des clientèles de proximité qui se trouvent à 2 heures de Paris, et qui sont les plus nombreuses.
Si les visiteurs américains confirment leur retour, la clientèle asiatique se fait toujours attendre. Les Jeux Olympiques organisés cette année en France devraient les inciter à revenir.
Et en perspective, dans les semaines qui viennent et mois qui viennent, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, plus 6% d'arrivées aériennes prévues dans les 6 prochains mois, ce qui nous laisse présager de nombre de visiteurs dans notre beau pays pour cet événement mondial.
Deux autres événements sont également très attendus cette année en France. Le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, mais aussi la réouverture de Notre-Dame.
L'actualité, c'est aussi ce jour de deuil national en Russie. Après l'attaque de vendredi soir à Moscou, revendiquée par le groupe État islamique, au moins 133 personnes ont été tuées et 152 blessées. Alors que les recherches sous les décombres de la salle de concert se poursuivent, 11 individus ont été arrêtés, dont 4 terroristes, des citoyens étrangers, selon les autorités russes, capturés dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine et du Bélarus. Je vous retrouve à 12h30 pour un prochain point sur l'actualité. La suite, c'est avec vous Thierry.
Et le rendez-vous est pris, évidemment, ma chère Isabelle, à tout à l'heure. Allez, je vous présente le plateau de grands témoins qui m'accompagnent ce dimanche. Florence Roas, avocate pénaliste, que je suis ravi d'accueillir. Denis Deschamps, conférencier Joey Pelote, politologue, ça y est, j'y arrive, waouh. Patrice Arditi, journaliste, infidèle également. Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. Et Stéphane Manigol, restaurateur, entre autres. Ça va vous faire plaisir quand même, hein, ce que vient de dire Isabelle. Tourisme en hausse en France,
oui,
c'est bien ça.
Il manque les Asiatiques, les Russes par évidence. Mais c'est une bonne chose, ouais.
Une bonne chose.
On a hâte d'avoir les Jeux Olympiques. Je pense que, il faut que ça se passe bien, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait un débile qui se...
Mettre
l'irréparable pour le pays, mais derrière, ça va être un rayonnement formidable pour la France et pour tous les artisans français.
C'est important de le dire. Allez, on va commencer cette deuxième heure en prenant la direction de Compiègne dans l'Oise. Reportage embarqué avec la police municipale qui lutte contre les rodéos. Vous savez, quand il commence à faire beau, les rodéos reviennent. C'est comme ça, c'est la saison. C'est pas toujours très simple à gérer. On sera dans quelques instants avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national d'unité SGP Sud, qu'on interrogera. Regardez ce reportage, en tous les cas, édifiant de Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde Ibanez.
Mes équipages, je viens de recevoir un appel téléphonique d'une dame justement qui a failli avoir un accident à cause de deux motos qui lui ont croisé la route.
Ce type d'appel d'urgence, c'est le quotidien de ces agents de la police municipale. Chaque jour, ils patrouillent à Compiègne pour tenter de lutter contre le fléau des rodéos urbains.
C'est vraiment des opérations qui seront programmées, qu'on met en place avec des stratégies pour ne pas non plus aller sur le secteur et envenimer les choses et rentrer dans le jeu des jeunes.
Rapidement repérés par les jeunes, ils se font suivre dès l'entrée dans le quartier.
Ouais, donc on a la moto bleue qui nous suit au niveau du mât. Ouais, ils ont fait demi-tour au commerce, ça repart dans l'autre sens.
Mais une fois sortis de la voiture... Le jeu du chat et la souris est lancé entre les policiers et les jeunes.
Voilà, vous avez un peu l'exemple. Si on s'arrête et qu'on met pied à terre, ils vont prendre la fuite.
Impossible donc pour ces agents de travailler efficacement sans prendre des risques.
Il faut que eux n'aient pas d'accident, que nous aussi on travaille en sécurité et qu'on ne soit pas mis en danger également.
Pourtant ici, à force de négociations avec la BAC, ils arrivent à mettre pied à terre un des individus. Mais un instant après, d'autres jeunes continuent leur manège narguant les forces de l'ordre. Une présence sur place importante, mais compliquée si les actions ne sont pas coordonnées avec les autres services de police.
Police nationale, police municipale sont absolument complémentaires. À Compiègne, ça marche main dans la main. Seule la police nationale a la capacité de procéder à des contrôles d'identité à certains actes d'investigation. La police municipale, elle a l'avantage d'être disponible, de bien connaître les quartiers.
La mairie a mis en place un site internet Stop Rodéo pour permettre aux habitants de prévenir les forces de l'ordre sous couvert d'anonymat.
Allez, on ouvre le débat avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national Unité SGP Sud. On va vous garder tout au long de cette émission, Bruno, parce qu'on a deux sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre. Ben oui, je le disais de manière humoristique, parce que c'est pas drôle pour les habitants qui vivent. Mais quand il fait beau, les rodéos reviennent et on voit, c'est pas toujours très simple. Et on n'a toujours pas trouvé la solution, quoi, en France. Hein.
Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que lorsqu'il fait beau, on retrouve ce problème, et pendant les longues vacances également. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de provocations de leur part, comme ça a été développé sur le sujet. Je crois qu'après, en matière d'interpellation, il faut user de stratégie, parce qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Si on les interpelle, c'est pour éviter qu'ils se mettent en danger et qu'ils mettent en danger la vie d'autrui. Et nous, de notre côté, lorsqu'on doit bien sûr les interpeller, il est hors de question de les mettre en danger à ce moment-là avec une fuite qui pourrait occasionner des blessures graves ou des morts. Je crois qu'après, ce qui compte surtout, c'est après l'interpellation, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va être en capacité de dissuader ces jeunes de recommencer ? On voit des quads, on voit des motos. Aujourd'hui, on est un peu limité pour saisir ces véhicules lorsque le conducteur, finalement, n'est pas le propriétaire du véhicule. Donc, vous voyez, je crois qu'il va falloir aller beaucoup plus loin pour, dans la sanction, vraiment les dissuader de recommencer. Et ça pourra porter ses fruits. Mais surtout, j'ajoute également qu'on le voit à travers ce reportage, on demande à la police nationale, à la gendarmerie, à la police municipale, finalement, de prioriser toutes sortes de missions, notamment les rodéos et puis les trafics de stupéfiants. On va y venir tout de suite après, les Jeux Olympiques. Donc, on doit être partout avec pas assez de moyens aujourd'hui en France pour intervenir.
Restez avec nous, Bruno Bartocchetti. Florence Roy, je me souviens que l'an passé, on avait fait un sujet à Lyon, de manière identique, où on avait embarqué une de nos équipes avec des policiers. Et l'équipe m'avait dit, en retour, on n'a pas grand-chose. Sauf qu'on avait une séquence très forte. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la voiture, et à un moment donné, les deux policiers croisent deux jeunes qui étaient en train d'être arrêtés à nouveau. Et ces deux policiers témoignaient avec notre équipe de journalistes en disant, mais regardez, on les a arrêtés hier, et ils étaient à nouveau dehors, et ils étaient encore arrêtés une nouvelle fois pour un rodéo. C'est un peu le symbole de l'impuissance, en fait. Hein.
Oui, alors déjà, premièrement, il faut dire que c'est une pratique complètement débile, et il faudrait avoir un vrai discours à l'égard de ces jeunes pour leur dire que c'est non seulement dangereux, et insister pour eux, mais dangereux pour les gens qui habitent dans ces quartiers, qui sont des quartiers populaires, qui sont concernés au premier chef. Déjà, il y a tout un discours de pédagogie et en amont qui me semble fondamental. Ensuite, sur la question que vous soulignez, c'est-à-dire des interpellations de gens qui sont relâchés. Vous savez, à partir du moment où... tout dépend du texte de loi qui est visé. Et est-ce que, finalement, est-ce qu'ils commettent une infraction ? S'ils commettent une infraction, ils vont être interpellés, placés en garde à vue, présentés devant un juge ou déférés en comparution immédiate, jugés. Si, en revanche, c'est un simple contrôle d'identité, eh bien, c'est normal qu'ils soient relâchés après. Vous comprenez, il y a un vrai problème de droit. Après, on peut toujours légiférer sur légiférer. Mais si vous voulez, si on s'en tient, à une chaîne pénale qui dit commission d'une infraction, il y a, contrairement à cette idée qui court dans l'opinion publique, qui est parfois relayée ici et là par des policiers, mais de façon contextualisée. Ils ne le disent pas dans un discours que j'appelle, moi, populiste. Mmh. C'est-à-dire qu'ils consistent à dire « Ah oui, on en a assez, on les arrête, on relâche, la justice est laxiste ». Ça, c'est un discours populiste. Mmh. Un discours...
C'est aussi un peu la réalité qu'il dénonce.
Oui, mais la réalité, si vous voulez, la vraie question aussi, c'est tout ce que ça dit sur un plan sociologique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend dans tout cela ? C'est qu'en fait, il provoque la police. En fait, c'est ça la vraie question. C'est comme quand ces histoires de refus d'obtempérer, c'est comme l'autre fois, on regardait la manifestation, vous savez, pour ce jeune qui est mort à La Courneuve, je crois.
C'est ça.
Et où on voit que des drapeaux algériens. Il y a un vrai sujet, en fait, derrière tout ça. Mmh. Il y a une haine de la France. Donc, il y a un problème identitaire. Bon, la police, qu'est-ce que c'est ? C'est l'autorité. Ça incarne aussi, si vous voulez, c'est le symbole de la République. Donc, en fait, derrière, vous savez, de ce sujet-là, de la répression, de la dissuasion, de la pédagogie, il y a aussi un certain nombre de thèmes qu'il faut aborder et qu'il va falloir aborder sérieusement, y compris peut-être en réunissant des états généraux qui réunissent la police, la justice, les médiateurs, les éducateurs, des gens qui sont vraiment en prise avec tout ça Parce que, au fond, le vrai sujet, c'est pourquoi ces gens provoquent, en fait. Parce qu'ils se mettent en danger, c'est sûr, mais ils mettent aussi en danger les autres.
Patrice.
Alors d'abord, il faut rappeler que le maire que nous avons vu dans le sujet tout à l'heure, il y a plus d'un an, avait justement appelé la population à dénoncer les habitués de cette pratique. J'aimerais bien connaître les résultats de ces dénonciations, si dénonciations il y a eu et qu'est-ce qui s'est passé derrière. Maintenant, pour suivre ce que vient de dire Florence, la pédagogie, c'est bien, on peut faire de la pédagogie avec des gosses de 8 ans, mais là, manifestement, 16 ans, 17 ans, ça sert strictement à rien. Il y a de la provocation. C'est un jeu. C'est un jeu. Ils savent très très bien qu'ils prennent des risques parce que c'est dangereux, évidemment, de faire de la moto dans ces conditions. Mais c'est un simple jeu et de la provoque avec la police. Maintenant, il y a un flou. Il y a un flou juridique autour de, et vous l'avez suggéré, de ce risque qui consiste à penser que s'il y a un refus d'obtempérer, la police peut agir. Là, manifestement, comment ça se passe? On intime l'ordre à des gens en moto de s'arrêter. S'ils ne s'arrêtent pas, il y a un refus d'obtempérer, mais ça rentre pas dans le jeu, là. Je crois que les policiers ont l'ordre quand même de pas faire de vagues et surtout de pas risquer une collision comme ça a pu déjà se produire où la personne peut tomber de moto directement. Alors je crois que là aussi, il faut légiférer d'une autre manière, mais très rapidement, parce que comme vous le disiez, Thierry, tous les ans, on parle de ça à la même époque.
C'est la saison. En regardant le reportage, en commentant évidemment ce reportage, je disais, ils ont des motos, des quads, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Vous, Stéphane, vous disiez,
c'est pas trop son problème.
C'est pas trop le problème. Souvent, des véhicules qui sont volés, quoi.
Oui, et je vais l'illustrer d'ailleurs. Le 8 mai 2022, nous avons dans un établissement parisien un véhicule, une grosse cylindrée qui est volée à un voiturier. Le délinquant fait un espèce de rodéo dans Paris, il roule très fort. Et au feu rouge, je trouve un jeune travailleur qui ramenait sa collègue à la maison, arrêté au feu rouge. Il a été percuté, il est mort sur le coup. Et le criminel dont je parle, c'est le criminel d'Antoine Aleno, qui a perdu la vie. Et ce criminel, en décembre 2022, donc quelques mois après avoir tué, volé une voiture, tué un jeune, eh bien, il était libéré sous contrôle judiciaire, mais il était dehors. Alors, permettez-moi de faire un parallèle entre l'affaire Naël et celle-ci. Pour ma part, mon choix, il est vite fait. Force à la police.
Pierre.
Moi, quand je vois ça, je suis complètement dégoûté. Si vous voulez, quand j'entends que la police a pour instruction de surtout pas faire de bobos... Il ne faut pas que ça dégénère, donc on les suit. Il y a une dame qui a appelé, bon, on y va, mais en même temps, on ne peut rien. Et si on l'arrête, le type, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas saisir sa moto parce qu'elle n'est pas à lui. Donc, on ne peut pas le déférer. Et si on le déférait, il ne va rien se passer parce que l'excuse mineure, etc. Donc, on est en fait dans un territoire d'impuissance totale. Et derrière, vous avez raison, Florence, il y a toute cette jeunesse issue de l'immigration, née en France, théoriquement française, mais qui se retrouve absolument pas dans ce pays et qui le déteste. Et ça se traduit par ça, comme ça se traduit par l'attaque contre le commissariat l'autre jour, parce qu'on a l'avocat de la famille a accusé la police d'avoir délibérément tué le jeune, ce qui est monstrueux, quoi. Il n'y a eu aucun rappel. Le conseil des barreaux n'a rien dit, donc. Non mais c'est non,
ouais, je veux dire. J'ai pas vu, je sais pas de quoi il s'agit.
J'ai entendu l'avocat dire, c'est au nom de la famille, la police a tué. Alors délibérément, parce que le type a déboîté le policier, il y avait une voiture devant lui.
Bon, il a sa stratégie de défense.
Non mais
les amis,
à partir du moment où on est dans un système où la police est criminelle, elle est violente. Donc on a deux gangs. Il y a un gang qui se bat contre l'autre. Donc on attaque 500 villes en France au mois de juin. 6 mois après, on attendait une explication du président de la République. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il s'ennuyait. Bon, ben, si vous voulez, on est dans un système comme ça.
En même temps, à Marseille, il a fait une grosse descente. Et
allez, les amis, vous voyez qu'on avance.
Il a fait une descente le lendemain. La Provence a dit...
la pieuvre, quoi.
Je voyais qu'on avance, les amis. Je voyais qu'on aille du côté de Nice. Pourquoi Nice? Voilà. Parce que les opérations Place Nette se multiplient un peu partout. Vous le savez, on en a largement parlé, notamment avec Marseille. Vous avez raison de le rappeler, mon cher Stéphane. Et à Nice, dans le quartier des Moulins, la drogue est omniprésente. Les forces de l'ordre multiplient les actions, mais les riverains ne voient pas vraiment d'effet. Regardez ce reportage de Franck Trivio qui s'est rendu sur place avec les images qui sont commentées par Mathilde Ibanez. Et on sera avec Bruno Bartocchetti qui est toujours avec nous.
Les opérations Place Net s'intensifient depuis plusieurs mois ici, dans le quartier des Moulins à Nice, où le trafic de drogue est le cauchemar des riverains.
Tous les soirs, ce square est squatté et on les voit de loin. Hein. Tout le trafic se met en place ici. Une terreur qui se met en place gentiment. Et là, on a un peu d'État qui nous dit « Attention, on est là, mais bon, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. »
Pour les forces de police, un seul objectif, nuire le plus possible à la vie des trafiquants.
Ce qu'il faut, c'est pilonner de chaque instant par ces opérations Place Net. Elles doivent donc s'inscrire dans la durée pour être efficaces. Ça, c'est capital. L'idée, c'est de créer la crise économique.
Mais pour arriver à tenir sur la durée, les forces de l'ordre réclament une centaine d'effectifs supplémentaires, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux pour mener à bien les enquêtes.
Nos collègues sont absolument, je parle des enquêteurs, au four et au moulin. Et on a besoin à Nice, urgemment, d'OPJ et d'enquêteurs sur le terrain pour que ces trafics soient aussi démantelés.
Des opérations Place Net qui ont déjà fait leurs preuves.
On a procédé à 14 interpellations et une dizaine de kilos de cocaïne ont été saisis, des armes de poing. Voilà, on a un bilan d'ailleurs assez éloquent sur l'année 2023 puisqu'on a 100 kilos de cocaïne, une centaine d'armes également qui ont été saisies, 3 tonnes de résine.
Il s'agit d'augmenter le nombre d'opérations pour ne pas laisser d'espace aux dealers.
Bruno Bartocchetti, vous êtes toujours avec nous, ça promet pour les JO. Vous êtes sur tous les fronts, on le voit dans ce quartier. Vous êtes là, vous êtes présent, évidemment. Mais les habitants constatent que rien ne change, hélas. Hein, et on ne vous incrimine pas, évidemment. Hein, vous faites votre boulot, mais vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Quoi. Et ça va être compliqué. Hein.
Oui, complètement. De toute façon, ça a été dit dans le reportage, il faut effectivement beaucoup plus de moyens pour les enquêteurs. Mais on va commencer déjà à la base, comme vous venez de le souligner. Il y a les JO et il va falloir être présent pour cet événement important en France et on va manquer cruellement d'effectifs pour sécuriser bien sûr le reste de l'Hexagone, en sachant que on parle de Nice, enfin il y a toutes les Alpes-Maritimes qui sont concernées, hein. Vous avez de Grasse, Cannes qui sont concernées par ce fléau et c'est vrai que ça demanderait beaucoup plus d'effectifs pour pilonner, pour mettre en place ces opérations sur la durée. Ces opérations qui ont quand même un intérêt. Bien sûr qu'il y a eu de la com autour de ces opérations Place Net, on le sait, mais au-delà de la com, on ne peut pas, et c'est parce que vous dites d'ailleurs, pointer du doigt les policiers en disant qu'ils ne sont pas présents sur le terrain, c'est ce qu'on fait. Mais sur la durée, ça va être compliqué. Il faut les multiplier, ces opérations, et puis il faut un suivi derrière pour les enquêteurs, car ils n'ont pas assez de moyens pour cela. Il faut un suivi après, bien sûr, sur les réponses pénales, et ça, on sait que c'est un sujet en France. Je me répète, mais quand le garde des Sceaux descend à Marseille avec le ministre de la Justice, lui aussi doit s'expliquer là-dessus. Il doit nous donner des pistes de travail. Pour l'instant, ça reste très, très insuffisant. En plus, dans les Alpes-Maritimes, c'est une ville qui est hyper sécurisée. On a beaucoup de sujets à traiter. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Je pense aux mineurs étrangers isolés où on ne peut rien faire pour les sanctions. Les reconduire à la frontière s'ajoute à ces trafics de stupéfiants, donc des agressions qui sont faites à l'endroit des Niçois. Donc pour revenir sur cette ville, vous avez vraiment de nombreuses agressions qui sont commises dans ce département et on ne peut pas être, pour reprendre l'expression de mon collègue Laurent Martin de Frémont de Nice, on ne peut pas être au four et au moulin, en tout cas à la résidence des Moulins qui souffre d'un grand trafic de stupéfiants comme on le sait dans cette ville.
Merci beaucoup Bruno Bartocchetti, secrétaire national de l'unité SGP Sud, pour ce témoignage. Un mot rapide, Denis Deschamps.
Écoutez, la réponse, elle est très simple. Monsieur Bartocchetti l'a dit. C'est juste une question de moyens. Vous multipliez les effectifs de police par 10 et les effectifs de la justice par 10, vous allez trouver des solutions. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec des états généraux. À chaque fois qu'on a un problème en France et qu'on n'arrive pas à trouver ou à imposer la solution, on crée des états généraux. Regardez pour l'hôpital, regardez pour le monde de la santé. En fait, c'est simplement pour faire le constat que tout va mal. Mais en réalité, il faut leur donner des moyens. Et vous avez vu toutes les missions des policiers sur le terrain.
Qui dit moyen, dit argent.
Mais il y a plein de choses. Et mais il faut 10 fois plus de policiers. Et là, dans ces cas-là, on ne va pas faire du harcèlement. On va juste les arrêter.
Allez, deux mots, Stéphane et Pierre. Deux mots avant de partir en pub.
Quelques chiffres. En France, le trafic de drogue, ça représente 3 milliards d'économies souterraines. 3 milliards. Pour vous illustrer ce que représente 3 milliards dans l'économie réel, c'est Yves Rocher, le groupe Yves Rocher, qui est présent dans 114 pays, qui emploie 17 000 personnes. Ils ont fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc vous imaginez à quel point la puissance économique souterraine que ça représente, c'est 5 millions de consommateurs de cannabis, 600 000 de cocaïne. Bah, si avec ça vous arrivez à régler facilement ce problème de drogue, moi je suis preneur.
Bon courage. Pierre, le mot d'affaire, vraiment, deux secondes.
On va ajouter aussi les 300 000 emplois que ça génère, puisqu'il y a 300 000 jeunes qui vivent de ça. On commence à voir quand même les pistes. Hein. Les pistes, c'est les enquêteurs, c'est fondamental. Si vous voulez casser les réseaux des enquêteurs, c'est des juridictions spécialisées. Les juges sont venus le dire à l'Assemblée nationale, ça n'a pas plu au ministre de la Justice, mais il faut une juridiction spécialisée. Et c'est tout le volet international où il faut aller casser les réseaux. Mais c'est un énorme travail, il faut qu'on se réorganise en fonction d'une chose qui est en train de devenir une menace de sécurité nationale. Il ne faudrait pas qu'on devienne un narco-État, comme on regarde ce qui se passe en Belgique et en Hollande. C'est très inquiétant.
Allez, on marque une pause pour la dernière ligne droite. Et oui, Patrice, c'est comme ça. Vous entendez la petite musique. Je vous emmène en Guyane, mais vous allez rester avec moi. Hein. Mais je vous emmène en Guyane, un département que vous connaissez bien, oui. Pierre Lelouch, parce que Emmanuel Macron est en Guyane. On va retrouver Florian Tardif. Il a un programme très, très chargé, Emmanuel Macron, là-bas. Et on l'attend de pied ferme, me semble-t-il. Allez, à tout de suite. C'est sur CNews que ça se passe. Et nulle part ailleurs. Vous connaissez la petite chanson. Il est 12h30. Bon appétit si vous êtes à table. Vous verrez, on parlera. Pardon ?
Bon poulet rôti.
Et bon poulet rôti, oui.
Bah oui, c'est le plat préféré des Français. C'est
le plat, on en parlera.
Le dimanche par excellence.
Alors, bon poulet rôti en tous les cas. Vous êtes bien sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour CNews Weekend. Et on va retrouver Isabelle Piblot. Et j'ai faim, moi, du coup. Isabelle Piblot, on fait un tour de l'info.
Emmanuel Macron en une du JDD. L'Europe puissance ne peut pas attendre. C'est à l'Europe de prendre sa défense en main, a déclaré le président de la République. Un discours va-t-en-guerre face à la menace russe. Le chef de l'État a tout de même fait part de sa compassion compte tenu de l'attaque à Moscou. Quand un peuple est endeuillé par le terrorisme, la France est toujours solidaire, a-t-il ajouté. L'armée ukrainienne dit avoir touché deux navires amphibies russes lors d'une attaque sur Sébastopol, grand port de la péninsule de Crimée. Une revendication qui intervient après une troisième nuit de bombardement massif du pays par la Russie. Un centre de communication a également été atteint, ainsi que d'autres infrastructures, de la flotte russe en mer Noire. Et puis les Sénégalais appelés aux urnes pour élire leur cinquième président. L'opposant Ousmane Sonko prédit la victoire éclatante de son second, Bassirou Diomaye Faye, grâce à une participation massive des jeunes. Le président sortant, Macky Sall, lui, a mis en garde contre les déclarations prématurées de victoire. Ce soir, les bureaux de vote vont parler, a-t-il déclaré. Ces derniers resteront ouverts jusqu'à 18h.
Merci beaucoup Isabelle. Allez, toujours avec moi Florence Roas, Denis Deschamps, Patrice Arditi, Pierre Lelouch et Stéphane Manigol. Allez, je vous promets, on va partir en Guyane. Pourquoi la Guyane ? Parce qu'Emmanuel Macron est attendu à partir de demain pour une visite de deux jours. Le chef de l'État est attendu de pied ferme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. C'est une visite express. On voit tout cela avec Florian Tardif.
Oui, visite attendue, très attendue du chef de l'État, puisque le territoire guyanais fait face à de multiples problèmes entre criminalité, chômage et épidémie. Au cours de ses 48 heures sur place, Emmanuel Macron aura l'occasion d'aborder une partie de ces sujets, une partie seulement, et c'est critiqué d'ailleurs par la population sur place. Au programme de sa visite, trois dossiers, principalement le dossier sécuritaire. Il sera question de lutte contre l'orpaillage illégal, 10 fois plus important que l'extraction légale de l'or sur place. Le dossier institutionnel, il sera question de l'évolution statutaire de l'île, notamment lors d'un échange que le président de la République aura avec des élus locaux. Et troisième et dernier sujet qui sera abordé par le chef de l'État, le dossier spatial. Il se rendra à Kourou pour visiter le pas de tir de la fusée Ariane 6. Une visite, vous l'avez compris, au pas de charge qui ne permettra pas forcément au président de la République de resserrer les liens avec une population défiante à son égard, puisque 60% de la population ici a voté pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle de 2022 au second tour.
Alors Pierre, c'est la Guyane, vous connaissez bien. Il n'est pas en terre conquise là-bas. C'est moins qu'on puisse dire Emmanuel Macron, hein, puisque Florian vient de nous le dire. C'est plutôt Marine Le Pen là, qui est en terre conquise.
On a un vaste problème avec nos territoires d'outre-mer. Hein. Calédonie, Polynésie.
Mayotte.
Mayotte, évidemment.
La Guinée, c'est un problème multidimensionnel. Vous avez un trafic de drogue épouvantable qui arrive du Suriname et du Brésil et qu'on retrouve tous les jours dans les mules qui arrivent à l'aéroport. Beaucoup, beaucoup de gens prennent de la drogue, ingèrent de la drogue pour transporter la drogue. C'est épouvantable, mais ça touche énormément de gens. Il y a un grand niveau de pauvreté, beaucoup d'insécurité en Guyane et une situation très difficile, y compris pour ceux qui travaillent sur le centre spatial. Les maisons sont attaquées. Enfin, c'est une situation qui est très, très dure. Ensuite, vous avez des équipes entières de Brésiliens et de galimperos, comme ils disent, Brésiliens, Surinamais, qui sont installés dans la forêt et qui exploitent ciel ouvert. Alors, ils cassent tout, hein, collines entières, ils mettent du mercure dans les rivières et ils sortent, je crois, de l'ordre de 300 tonnes d'or, bien plus que les concessions publiques, qui sont d'ailleurs très mal foutues, puisqu'il n'y a pas encore de vraies sociétés. La France n'a pas organisé une vraie politique d'exploitation minière de l'or en Guyane, et donc ce sont les criminels qui le font. Donc Emmanuel Macron, il a un énorme problème. Ensuite, il y a Kourou, puisque avec la rupture avec la Russie, beaucoup des lancements, on faisait des lancements avec Soyouz qui marchaient très bien, ben, il n'y a plus. Et un domaine spatial où, là encore, la concurrence américaine, elle est terriblement dure. Donc il y a un vrai sujet sur le devenir de ce département français. Comment l'organiser, comment gérer la drogue, comment gérer la sécurité. Les gens se sentent abandonnés par Paris.
Et là, c'est
un voyage très difficile pour lui.
Ouais, voyage très difficile et Florian le disait.
Très honnêtement, ça date pas de Macron. Alors ça, c'est, le délaissement de la Guyane, c'est une affaire ancienne. On a mis des fusées là-bas, on pensait que ça allait très bien. En réalité, les fusées, ça nourrit un tout petit nombre de gens, des scientifiques qui viennent. Et les techniciens.
Je note que vous dites quelque chose de positif sur Emmanuel Macron. Non, ça arrive assez rarement.
Je dis qu'on a un vrai sujet avec ce.
Je plaisante, hein, évidemment.
Mais qu'on a fait des magnifiques bêtises. Je pense au pont ouvert sous Nicolas Sarkozy, le pont sur l'Oyapock qui donne sur rien parce que les Brésiliens n'ont jamais fait de route de l'autre côté. C'est un des trucs les plus surréalistes que j'ai vu dans ma vie, c'est-à-dire un pont magnifique avec des douaniers, avec des fonctionnaires de police chargés de contrôler l'immigration. Le pont, il est fermé parce qu'il n'y a pas de route de l'autre côté. Par contre, vous avez des pirogues juste en dessous qui amènent toute la journée des filles pour accoucher en France et se mettre aux allocs. On appelle ça la cafiste. Elle s'appelle elle-même « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie plus tard ?» 14 ans, cafiste. Donc vive de la CAF. La drogue, l'immigration clandestine, c'est un sujet majeur.
En tous les cas, si j'ai bien noté, orpaillage, statut de Lille
et immigration
plus tout ça en deux jours. Je ne sais pas si on peut attendre grand-chose de cette visite, Patrice.
D'autant que ce qui m'intéresse particulièrement, mais qui doit intéresser
pas
mal de gens, c'est ce fameux projet d'autonomie quand même de la Guyane, avec un statut particulier réclamé par un certain nombre de personnes. Et là, c'est le flou artistique autour de l'équipe de M. Macron. Je ne sais même pas s'il va aborder la question maintenant. Ce que Pierre Lelouch racontait sur leur paillage, c'est quelque chose de considérable. Je n'arrive pas à penser que depuis des années, on n'ait pas réglé ce problème. Quand Pierre Lelouch disait tout à l'heure que l'extraction de l'or publique, légale, était mal fichue, c'est absolument invraisemblable. Et puis, il y a quand même autre chose en dehors de l'orpaillage et du spatial qui compte en Guyane, c'est le problème de la pêche clandestine qui au niveau économique est assez considérable. Et puis je terminerai par les homicides et les vols à main armée. Je crois que la Guyane est détentrice des records nationaux.
Allez, on va changer de sujet, on va parler de fraude fiscale et sociale avec un chiffre dingue, plus de 17 milliards d'euros au total pour l'année 2023, les amis. Le gouvernement salue cette semaine des résultats historiques, on va en parler. On n'a jamais autant traqué la fraude, assure Gabriel Attal. On voit ces chiffres avec Régine Delfour, on ouvre le débat très rapidement, ensemble.
Faux arrêts de travail, allocations familiales indûment versées, piscine non déclarée, les chiffres de la fraude fiscale et sociale donnent le tournis. Grâce à l'intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées ont été détectées, ce qui représente 40 millions d'euros de la taxe foncière. Dans le viseur également, les fausses ordonnances et les faux arrêts de travail vendus pour quelques dizaines d'euros sur les réseaux sociaux. Une perte estimée à environ 16 millions d'euros. À noter également les fraudes liées aux retraites versées à l'étranger. Le Premier ministre a d'ailleurs déclaré mercredi :
nous avons doublé les contrôles de retraités résidant à l'étranger et nous en avons détecté, rien qu'en Algérie, 750 dossiers frauduleux l'année dernière.
La fraude aux prestations sociales affiche aussi un chiffre historique, plus d'un milliard d'euros, principalement dû à la surfacturation ou à la facturation d'actes fictifs par un professionnel de santé. Le versement des allocations familiales est également très contrôlé. En un an, les caisses d'allocations familiales ont renforcé d'un tiers leur vérification. La fraude s'élève tout de même à 400 millions d'euros.
Allez, on va écouter Éric Ciotti qui était l'invité du rendez-vous de Sonia Mabrouk qui parle justement de la dette de la France. Ça va être le débat, je suis persuadé.
Nous étions à 1200 milliards d'euros de dette. Nous serons 2000 milliards d'euros de plus. Tout ça ne peut plus durer. Le service de la dette, je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais à la fin du quinquennat Macron, on remboursera 80. Le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette, intérêt, sera de 84 milliards d'euros. C'est-à-dire 4 fois le budget du ministère de l'Intérieur. Une fois et demie le budget de la Défense.
Le chef d'entreprise que vous êtes, Stéphane, ça ne vous laisse pas totalement insensible, évidemment.
Non, et puis je peux vous l'annoncer, elles vont augmenter ces fraudes cette année. Pourquoi ? Parce que sur les fraudes sociales, notamment. Nous sommes battus, nous les chefs d'entreprise, pour que, par exemple, un abandon de poste ne soit plus considéré comme un licenciement obligatoire de l'entreprise, mais comme une démission n'ouvrant plus droit au chômage. Eh bien, on assiste aujourd'hui à des salariés qui vont mettre une pression terrible auprès des médecins, de la médecine du travail, pour être inaptes, tout simplement, parce que c'est plutôt sympa, à 30 ans, d'être inapte, et ça permet de toucher...
C'est une question de mentalité, ça, mais...
Oui, mais c'est une question... Alors, ou d'opportunité.
Ou d'opportunité, si
et
vous voulez.
Si, ouais. En fait, vous savez, quand un salarié vous dit, mais moi, au fond, quand vous êtes pas d'accord avec lui, il vous dit mais je vais me mettre en arrêt. Alors, je ne savais pas que tous les salariés avaient fait médecine. Et effectivement, il revient, il a 3 semaines, 4 semaines d'arrêt. C'est complètement insupportable. Et on en a, au fond, je pense que les Français, ils ont un peu ras-le-bol d'avoir une politique à la fois pour les minorités ou pour les dingues. Dès qu'on est dans cette situation, on coche toutes les cases et on remplit tout, toutes les aides, mais les gens normaux, rien.
Non, c'est des vibrants.
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, la France est un pays extrêmement fiscalisé. Nous, par exemple, et alors vous avez parlé, vous, en votre qualité de chef d'entreprise, mais nous, profession libérale, on est écrasés de charges. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a un vrai deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a effectivement des gens qui profitent. Mais bon, ça, les profiteurs, il y en a toujours eu, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent.
On a tendance à dire qu'il y en a de plus en plus.
Il y en a qui profitent de situations, encore que, comme le disait votre reportage, il y a énormément de contrôle. Et de plus en plus, moi, je le vois même en ma qualité d'avocate. C'est vrai.
Au niveau qu'on ne voit pas.
De compte, exactement. Exactement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais c'est vrai que la fiscalité, notamment des professions libérales, mais c'est insupportable. On est écrasé de charges. Écrasé de charges. Maintenant, après, il y a un troisième volet que moi, et qui m'a un peu choqué cette semaine, c'est quand on parle de dénonciation. Alors moi, j'ai un problème avec la dénonciation, je déteste ça. On a beau m'expliquer qu'elle est civique, etc. Mais vous savez que tous les gens qui travaillent dans les services fiscaux vous disent qu'ils reçoivent énormément de lettres anonymes.
Ça, c'est quand même
et qu'en
pas.
Plus, ils sont rémunérés si d'aventure la dénonciation mène à récupérer des fonds.
Ça dépend de la somme.
Bon, peut-être. Mais en tout
10%,
cas, peut-être que sur le principe, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec. Bon, mais c'est historique chez moi. C'est génétique.
Denis,
là, on parle de 17 milliards de recouvrement. En fait, c'est pas rien, même si la somme est faible en absolu. Ça représente quand même 4% du budget. Comme c'est pas rien.
Un tiers des intérêts de la dette.
Et en réalité, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin parce que derrière la fraude, cette espèce de gros concept totalement flou, il y a des dizaines et des dizaines de sujets. Mais vraiment, on pourrait parler aussi, ça n'a pas été évoqué, on pourrait parler par exemple des 5 à 10 millions de cartes vitales qui circulent dans la circulation où il n'y a personne derrière, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, techniquement, on peut suivre ça, c'est une volonté de l'État, si on voulait. On va taper sur quelques médecins, et je suis d'accord avec vous, il y en a qui ont l'arrêt de travail facile, et il y en a qui ont la demande d'arrêt de travail facile aussi. On a tous des exemples autour de nous, plus ou moins proches. Donc ça, c'est pas normal. Mais en même temps, le médecin aussi, c'est le lien social avec beaucoup de personnes, des personnes âgées, il a aussi son rôle, pas dans les arrêts de travail, mais il a un rôle, il ne faudrait pas non plus taper sur la profession en général, vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas montrer du doigt. Mais la fraude, en fait, quand on regarde bien, le travail au noir, les non-déclarations, c'est plein
plein de sujets derrière. Et en réalité, on le voit notamment dans certains services sociaux, puisqu'on a vu que Bruno Le Maire s'intéresse à l'énorme budget des services sociaux en globalité, il a plus de 900 milliards. Vous imaginez s'il y avait 2, 3, 5% de fraude là-dedans. C'est colossal, les marges. Donc effectivement, je rejoins ce qui était dit. La dette, elle va exploser dans son service de la dette, ce qu'on appelle le paiement de l'intérêt. Ça va être le premier budget de l'État. Donc là, il va falloir effectivement regarder où sont les fuites et colmater les fuites.
Allez, un dernier mot sur le sujet, parce qu'on va parler du guide Michelin juste après. En termes de conclusion de ce Mini News Weekend.
Il y aurait tellement à dire. Qu'est-ce que je vous dis ? Ça fait 50 ans qu'on a un budget en déficit. Aucun ménage, nulle part, aucune entreprise pourrait survivre à un système où, année après année, on dit on est en déficit. On en est à notre 50e année consécutive de déficit. Et on en est maintenant à 3 000 milliards de dettes, avec une dette qui n'est même pas la nôtre, puisqu'elle est possédée par des fonds de pension américains, des Arabes et des Chinois. Autrement dit, le destin de la France est entre les mains des agences de notation. Si on veut reprendre le contrôle de notre destin, redevenir une grande puissance, et là je vous suis, il faut remettre de l'ordre dans nos finances, parce que 60% de l'argent, nous sommes le pays le plus fiscalisé d'Europe, le plus endetté d'Europe, et 60% de tout cet argent passe à ce fameux système social qui perd de l'argent de tous les côtés, au point, alors là je m'adresse aux restaurateurs, moi je connais des tonnes de restaurants, en pleine vacances d'été, dans des lieux touristiques qui ferment, personne ne veut travailler.
Ah oui, c'est ça.
Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas travailler ? Parce qu'ils sont aussi bien chez eux, puisqu'ils gagnent. Ça, plus un peu de noir, on gagne plus que d'aller travailler dans un restaurant. Et donc, il y a je connais des restaurants qui ferment.
Mais ils ont contraint.
Ils trouvent pas. Voilà, ils sont contraints.
On peut trouver.
Et bien, vous faites la transition, mon cher Pierre, parce qu'évidemment, il est quelle heure là ? 12h45, on va parler du guide Michelin. On en profite puisque Stéphane dirige près de 8 établissements, hein,
c'est
si je m'abuse. Le bilan du guide Michelin, vous allez nous dire en deux mots, c'est plutôt un bon millésime. Je vois, il y a 2 nouveaux restaurants 3 étoiles, 8 nouveaux 2 étoiles, 52 1 étoile. Et parmi les 2 nouveaux restaurants qui ont 3 étoiles, il y a un jeune chef de 35 ans.
35 ans, Fabien Ferret. Ça fait 10 ans qu'il est sous-chef au Castelet, qui est un établissement absolument magnifique. Et j'y suis allé cette année, enfin en 2023, pour tester ce jeune chef. Et je dois reconnaître qu'il est brillantissime. Et c'est amplement mérité de passer de 0 à 3, ce qui était, qui est arrivé une seule fois avec Arnaud Donquel, restaurant Plénitude Cheval Blanc. Où il est passé de 0 à 3 tout de suite lorsqu'il a ouvert. Donc c'est un bon cru, ça montre aussi le dynamisme et l'appétence des Français et des touristes pour ce type d'établissement. On regagne un peu en excellence, c'est une bonne chose. Mais j'ai un regret, mais qui n'a rien à voir cette fois-ci avec le guide Michelin, c'est l'absence de courage des politiques d'avoir enfin mis la transparence dans nos assiettes. Je vous en parlais, vous m'avez invité. Et je suis triste. Je suis triste parce qu'au fond, la restauration est le dernier pan de l'économie française où quand le consommateur commande un plat,
France, ça, quand même.
Il ne sait pas qui a cuisiné, si c'est le micro-ondes ou si c'est la valeur travail.
On pourrait faire une émission là-dessus.
Toutes les grandes décisions se sont prises à table. Les traités de paix, tout s'est fait à table.
Non, mais c'est surtout, moi c'est les filières qui m'intéressent, c'est les filières.
Les filières agricoles.
Voilà, tout à fait. C'est comment est-ce que l'on regagne notre souveraineté alimentaire qui a été perdue au fil des années par un décrochage et par
moi, je suis très heureux qu'on célèbre la gastronomie française. Très heureux, très fier. Je suis moins fier de savoir que nous sommes le deuxième marché pour McDo.
Oui. Non, le premier. Le premier restaurateur de France, c'est McDonald's.
Ouais. Le deuxième marché à l'export de McDo, c'est la France après les États-Unis.
Et puis, comme il est modeste.
On est capable des deux extrêmes.
Il est modeste, Stéphane Manigol, j'en profite pour lui faire un gros beau coup de chapeau, parce que vous avez 8 établissements, et sur les 8 établissements, vous avez quoi, 6 étoiles, me semble-t-il.
Magnifique.
Et puis, avec l'hémicycle qui a une très belle.
En dégustation.
On est devenu le groupe, sur la première marche du podium à Paris, le groupe le plus étoilé de Paris, à égalité avec Annick Aleno, Frédéric Anton
et Christian Lescar du Georges V. Donc félicitations à tous ces chefs.
Bravo.
Fait rayonner la gastronomie, on va continuer à le faire. Et il faut juste un tout petit peu de transparence pour regagner un peu de confiance.
Alors, comme à nos téléspectateurs doivent être à table, hein, on rappelle.
Le fameux poulet rôti.
Le fameux poulet rôti.
Du dimanche.
Du dimanche.
Français.
Français.
Ah oui.
Ah bah, il va s'en
dire. Belle volaille de Bresse, une belle volaille du Doubs.
Arrosé avec un vin venant, mais toute consommation véhément de la région de Pierre, peut-être.
C'était le sujet du Conseil européen.
Ouais.
Éviter les poulets ukrainiens dans les assiettes du dimanche.
Voilà, vous ramenez tout, hein, en fait. Hein. Je voulais terminer par une note très... parce que l'actualité est tellement lourde en ce moment.
On peut déporter chez ce monsieur.
Oui, on pourra peut-être envisager. Je vais en parler à Serge Nedjar pour voir si on ne peut pas faire une émission.
C'est un endroit qui peut s'y prêter. J'ai un bar caché qui s'appelle le 49-3. Ça peut être sympa.
Ah, ça peut être sympa. Allez.
Est-ce qu'on peut juste lancer une cagnotte sur CNews de manière à aller chez ce jeune chef de 35 ans quand même et que toute l'équipe puisse aller déjeuner à la table du Castelet.
Ouais, je vous propose, Thierry, vous désignez le meilleur chroniqueur et on l'invite.
D'accord, promis. Allez, je voudrais également rappeler que c'est important, c'est le dernier jour de la campagne de Sidaction. Donc, il faut donner en appelant le 110, on envoie le don par SMS au 92-110, c'est important. Les amis, merci, c'est un plaisir de vous avoir malgré cette actualité. Oh, combien lourde, il fallait terminer par une note un petit peu plus légère, vous connaissez bien cette émission. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce dimanche, François Epp, Samuel Vasselin, David Brunet, Tom Viala, Isabelle Piboulot, il y a du monde avec moi. Merci à la programmation Emmanuel Aumônier, Francisca Bamélé, merci aux équipes en régie, réalisation Laurent Prat à la vision, Samuel au son, Guillaume Marceau. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. J'y vais à toute vitesse, vos prochains rendez-vous dans quelques instants, évidemment c'est Enquête d'esprit avec l'ami Émeric Pourbet et puis à 14h l'ami Lionel Rousseau pour 180 minutes info. Demain, sur ce fauteuil, Sonia Mabrouk et moi je vous dis bye bye et je serai là de retour vendredi prochain à partir de midi. Et surtout, bon appétit. N'oubliez pas le poulet. Bon poulet grillé avec des bonnes petites pommes de terre sautées.
Ah oui, c'est bon.
Avec le gras qui coule et tout.
Un peu de pain derrière.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.